Et c'est parti pour le journal de la mi-journée, présenté par Anne-Laure Guffroy. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. C'est un staphylocoque qui est à l'origine de l'intoxication alimentaire qui a touché les enfants de la saga vendredi. On y revient avec Philippe Brana, le directeur du laboratoire des contrôles sanitaires de l'Institut Louis Mallardé. Après plusieurs mois de combat, les infirmiers libéraux se sont finalement résignés et viennent de signer l'avenant tarifaire 2013 de la convention collective. Un avenant qui prévoit la baisse de 5% de la valeur de leurs actes. Les explications sur ce retournement de situation avec le président du syndicat des infirmiers libéraux. Et puis la direction des enseignements primaires a inauguré ce matin sa médiathèque des écoles à Pierre-Haye. On y revient en fin de journal avec la responsable de cette nouvelle structure.
C'est donc un staphylocoque qui est responsable de l'intoxication alimentaire des 52 enfants de la saga.
C'est en tout cas ce que révèlent les résultats des analyses effectuées par l'Institut Louis Mallardé. Philippe Brana, le directeur du laboratoire des contrôles sanitaires de l'ILM, nous livre les explications de cet empoisonnement.
Alors il s'agit essentiellement de fautes d'hygiène au départ, hein, à savoir que la personne a pu avoir quelques blessures au niveau des mains. Et en fait, si elle ne les a pas soignées, elle a fait un transfert, je dirais, des staphylocoques présents sur les mains dans la nourriture. Et celui-ci s'est développé au cours du temps. Alors, le poulet est incriminé parce que c'est ce qui a été consommé. Après, ce qui a aggravé, je dirais, la suite, c'est l'absence de chaîne du froid. Les denrées alimentaires, en l'occurrence le casse-croûte, est resté très longtemps à température ambiante. Alors, il peut y avoir des risques très importants dès lors où les gens ne sont pas réhydratés tout de suite. Si on s'était retrouvé dans une île éloignée avec, je dirais, des moyens médicaux insuffisant, peut-être que le nombre de victimes un peu plus graves aurait été plus important.
Et pour éviter ce type de cas, le directeur recommande de ne pas acheter de plats emportés sans savoir si le traiteur possède l'autorisation d'exercer. Cette autorisation est délivrée par le service d'hygiène. Et toujours selon Philippe Brana, le traiteur incriminé dans cette affaire n'était pas en possession de cette autorisation.
Les infirmiers se résignent.
Ça y est, les infirmiers libéraux ont signé avec la CPS l'avenant tarifaire 2013 de la convention collective après plus de deux mois de bataille. On s'en souvient, en mois de décembre, les infirmiers libéraux avaient fait parler d'eux en protestant contre la baisse de 5% de la valeur de leurs actes. La pétition qu'ils avaient lancée a recueilli pas moins de 12 000 signatures. Alors pourquoi les infirmiers ont-ils finalement accepté de signer cette convention tarifaire? Les explications de Jérôme Fernandez, le président du syndicat des infirmiers libéraux de Polynésie française.
Finalement, on a été contraint de signer le couteau sous la gorge. Hein. C'est pas compliqué. Si on signe pas, la convention collective, elle tombe. Et sans convention collective, nous, c'est difficile de travailler puisque nous avons des conventions individuelles qui auraient suivi et le tarif d'autorité, c'est grosso modo, c'est divisé par deux la valeur de nos actes. Donc c'est pas tenable. Hein. Si on passe en convention individuelle au tarif d'autorité, il n'y a plus d'infirmiers à domicile. C'est clair et net.
Malgré la signature, le combat continue pour les infirmiers libéraux. Ils espèrent pouvoir rencontrer la semaine prochaine à Victorin Lurel afin de lui remettre un dossier sur les inégalités dont ils estiment être victimes. Ils espèrent également que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, mette en place une réforme avec harmonisation du traitement des professionnels de santé.
Richard Touyava veut modifier la loi Morin.
Richard Touyava annonce avoir déposé une nouvelle proposition de loi le 20 décembre dernier visant à actualiser la loi Morin relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaire français en Polynésie française. Il s'agit pour le sénateur, je cite, de corriger les critères géographiques aberrants posés dans la loi actuelle et surtout d'établir pleinement le principe de présomption de causalité entre les essais nucléaires et les maladies radio-induites. Et dans un communiqué adressé aux médias, Richard Touyava annonce qu'il a sollicité auprès du ministère de la Défense une nouvelle visite des atolls de Moranroy et Fangataufa, ainsi qu'une visite de la station sismographique de Tiperui placée sous la tutelle de la direction des affaires militaires du CEA.
Un colloque pour penser la position de la France dans le Pacifique.
Le Sénat organise demain en effet un colloque au Palais du Luxembourg à Paris sur le thème « La France dans le Pacifique, quelle vision pour le 21e siècle ?» Organisé par les parlementaires, ces tables rondes leur permettront de s'interroger sur les enjeux et le développement de l'outre-mer, mais aussi sur l'influence et la stratégie de la France dans le Pacifique. Édouard Fritsch, député polynésien du Tower A, y participera. On l'écoute.
Ce colloque est important pour la Polynésie puisque avec la Calédonie et Wallis et Futuna, nous sommes pratiquement les points de chute de la métropole ici et on devrait, à partir de nos trois territoires du Pacifique, pouvoir développer cette stratégie. Richard Touyava est inscrit parmi les orateurs de ce colloque. Ce qui est à craindre, c'est que Richard Touyava, encore une fois, vienne parler de décolonisation, vienne parler de différence de traitement, vienne en fait soulever des problèmes qui risquent de ne pas arranger nos relations avec la France. Le président de la République République, tout dernièrement, encore une fois, a affirmé sa désapprobation sur ce comportement d'Oscar Temaru et de ses amis. Aujourd'hui, même si pour Oscar Temaru, c'est un sujet politique important, l'indépendance de la Polynésie française, mais s'il veut en même temps que l'État nous soutienne, nous accompagne dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir faire table rase de ce genre de sujet et puis parler de développement et parler d'avenir du pays.
Des propos recueillis par Lucie Tchekarelli. On vient de l'apprendre dans l'affaire Ravel-Le Gaïc. Gaston Tétouanoui a été remis en liberté. Une information de nos confrères de la Dépêche de Tahiti. Dans cette affaire, Gaston Tétouanoui s'est présenté comme étant le facteur du dossier, le porteur des enveloppes d'argent en liquide. Il reste mis en examen pour complicité de corruption et trafic d'influence. Et puis par ailleurs, toujours dans cette affaire, Jean-Christophe Bouissou est toujours entendu sous le régime de la garde à vue. Le président de Taoui FM sera déféré devant le juge d'instruction en début d'après-midi. Nous connaîtrons alors le statut qu'occupera Jean-Christophe Bouissou dans ce dossier, libéré sans autre charge, mis en témoin assisté ou bien mis en examen.
Les concours pour les enseignants sont ouverts.
Oui, les inscriptions au concours de recrutement des personnels enseignants du second degré sont ouvertes depuis hier matin. Et parmi ces concours, on compte celui du CAPES. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est un véritable combat qui s'était instauré entre le vice-recteur et le ministre de l'Éducation au sujet des CAPESiens. Fin 2011, le tribunal administratif avait ordonné qu'ils soient tous affectés en Polynésie, mais 6 sur les 15 professeurs avaient été affectés en métropole. Le ministre de l'Éducation avait ensuite pris le parti des professeurs stagiaires en signant de nouveaux arrêtés pour qu'ils soient tous affectés en Polynésie. Grâce au recours gracieux du vice-recteur, ils avaient finalement pu poursuivre leur stage sur le Fenua. Pour Tahiti Nena, il s'agit avant tout cette année d'éviter de revivre ces conflits.
En ce qui concerne la rentrée prochaine, il y a trois solutions. La première, c'est qu'ils partent en France. La deuxième, c'est qu'on modifie le décret 94. Mais bon, ça va mettre un peu plus de temps. Ou la troisième, c'est qu'on essaye de négocier rapidement. Donc, c'est ce que je vais faire lors de mon prochain déplacement. En février, en France, il est vrai qu'il y a une mesure que le ministre de l'Éducation, M. Payon, devrait mettre en place pour qu'il y ait une création de l'école de supérieur de formation, les SP qui sont mis en place dans les établissements pour permettre justement à nos stagiaires de suivre. Donc la semaine dernière, j'étais en réunion aussi bien avec l'UFM qu'avec l'université pour qu'on puisse mettre une SP rapidement également à l'université pour permettre à nos étudiants de continuer à faire leur stage en Polynésie pour ceux qui le souhaitent.
Et les candidats ont jusqu'au 21 février prochain pour s'inscrire. Rendez-vous donc sur le site internet www.education.gouv.fr/SIAC2.
C'est pas compliqué du tout.
Non, j'espère qu'ils ont bien retenu, sinon ils pourront toujours aller sur le site internet de Radio 1, ils retrouveront tout.
Voilà, le centre de lecture de Pierre Hay s'enrichit d'une médiathèque.
La médiathèque des écoles a été inaugurée ce matin à Pierre Hay, rattachée au centre de lecture de la direction des enseignements primaires. Cette nouvelle médiathèque vient compléter la bibliothèque préexistante. Explication avec Ghislaine Marchal, responsable de cette nouvelle structure.
Nous avons voulu réorganiser la bibliothèque en médiathèque avec l'existant, donc le fonds documentaire que nous avons enrichi, que nous allons continuer d'enrichir, mais surtout en réaménageant et en réorganisant la médiathèque avec différents pôles. Donc nous avons le pôle multimédia qui va nous permettre de faire des projections cinématographiques. Nous avons un pôle formation, donc formation pendant le temps scolaire pour les élèves, les classes qui se déplacent à la médiathèque, mais aussi hors temps scolaire pour la formation des enseignants. Donc ça sera l'occasion aussi pour nous d'inaugurer les tablettes numériques qui nous ont été mises à disposition et d'intégrer l'utilisation de cet outil dans le cadre des actions littérature. Donc nous avons un pôle aussi purement langue et culture polynésienne et nous avons un pôle didactique pédagogique et un pôle jeunesse.
Et la médiathèque sera ouverte dans le courant de la semaine prochaine. Si elle accueille les scolaires et les enseignants, elle s'adresse également aux familles. Les modalités d'inscription et de prêt sont à retrouver sur le site internet www.dep.pf.